Du côté de Toronto, hier, disons que c'était dans un contexte complètement différent que notre prochain invité vivait ce moment précis. On écoute. Patinoire à bout de bras avec Katia Gordeva et il participait à Battle of the Blade. Bruno Gervais est avec nous. Salut Bruno!
Salut Jérémy!
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ben oui, comment t'as aimé l'expérience? Raconte-moi.
Ah, j'ai adoré. C'est complètement fou l'énergie qu'il y a. On était à l'aréna à Hamilton et c'était une expérience mémorable. Ça a un petit sentiment un peu là, de niveau hockey là, quand l'adrénaline monte. C'est une performance très intense. Ça a certaines similitudes. J'ai bien aimé l'encadrement, tout ce qui était là, l'expérience, ça, c'était vraiment fun.
OK, dis-moi dans un premier temps, désolé, j'ai dit Toronto, tu me dis que c'est Hamilton, parfait, on corrige le tout. Bruno, je veux savoir, est-ce que c'est difficile de patiner avec les patins de patinage artistique?
Ah oui, ben là, on remonte à quand j'ai eu le premier appel, quand j'ai décidé d'accepter le tout. Je me suis présenté à Brossard, à l'artiste du patin. C'est là que j'ai reçu mes patins officiels de Battles of the Blade. Et j'ai embarqué sur la glace. J'ai réussi à embarquer une fois, juste avant de partir, la journée que j'ai reçu les patins, avec Cynthia Faneuf. Et elle a accepté de venir me donner mes premiers cours. J'avais mes pattes de joueur, des coudes, un casque, tout, pour être certain, parce que les pics en avant, là, ben, c'est un ennemi du joueur de hockey au début. Ça a été c'est le grave ajustement pour tout le monde, pour les gars ou les filles qui sont là, qui représentent le côté du sport du hockey. Et parce qu'on utilise, au hockey, on utilise beaucoup le premier tiers de la lame.
Mm-hmm.
Mais en patin artistique, t'es vraiment plus assis, t'es plus droit, les pieds sont sous ton corps tout le temps. Mais au hockey, t'es tout le temps porté à projeter ton corps vers l'avant, puis tes pieds essaient de suivre. Tu veux te rendre là le plus rapidement possible. Donc, c'est deux mentalités différentes à ce niveau-là. Fait que c'était de réapprendre la base de se déplacer, que ce soit par les croisements ou les poussées ou la façon de faire. Mais au début, on riait les uns des autres, mais on s'est tous retrouvés à pleine face sur la glace à cause de ces pics-là.
Et comment ça s'est passé, les porter puis lever ta compagne dans les airs? Écoute, tu sais, c'est un petit format de madame, mais quand même, veut pas, avec le stress puis la chorégraphie qui roule, le cardio marche, ça a bien été là-dessus?
Ça l'a bien été, c'est toute une préparation. Là. Ça fait plusieurs semaines que je suis à Toronto en entraînement. On commence hors glace, on a les techniques, on a Paul Martini, qui est un ancien champion, qui est là, qui était un patineur de pair aussi, qui va nous donner beaucoup de techniques sur les levées. Mais c'est son côté un petit peu fou, folle à Katerina Gordeva, qui accepte le fait ou qui me fait confiance que je la lève au-dessus de ma tête dans ces conditions-là, qu'on est encore à apprendre les bases du sport. Et Katerina Gordeva, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la Gordie Howe, c'est la Wayne Gretzky du patin artistique. On l'appelle, moi j'aime ça l'appeler la GOAT, the greatest of all time, la meilleure de tous les temps. C'est vraiment phénoménal la carrière qu'elle a eue. Et elle me fait confiance, elle est au-dessus de ma tête dans certaines de ces levées-là. Des fois, je dis qu'elle est un peu fou braque de me faire confiance comme ça. Moi-même, je ne me ferais pas confiance d'être à cette hauteur-là dans les airs au-dessus de la glace.
Bon, ben écoute, félicitations encore pour la performance. Puis il faut mentionner que tout ça, c'est un concours. Là, les gens doivent voter pour toi. Là, tu as besoin du monde. Là.
Exact. On m'a averti au début, quand je suis arrivé, on me dit... habituellement, les représentants du Québec partent avec deux prises. Parce que le monde au Québec, ben, ils s'impliquent pas beaucoup là-dessus ou ne suivent pas, étant à CBC ou étant sur une chaîne télévisée en anglais. Mais le monde n'écoute pas beaucoup. Le monde ne va pas s'impliquer en allant des votes. Fait que là, ma mission cette année, c'est de changer un petit peu les choses parce que le but de tout ça, oui, on a beaucoup de plaisir. On va faire les fous, nous, à la TV nationale. Mais le but de ça, c'est de ramasser des fonds. On est en train de se battre, dans le fond, pour des fonds, pour nos charités. Et les fonds de tout ça, moi, je patine pour notre charité, Max Talbot et moi, notre charité à nous. Et c'est ça qui me donne ma motivation tous les jours de me planter, d'avoir les coudes et les genoux bleus, noirs, jaunes, la suite de plusieurs échymoses. Mais c'est un grand plaisir et c'est le but de tout ça. Mais là, j'ai besoin que le Québec se range derrière notre père. Québécois avec une Russe, ça fait des flammes.
OK, comment on fait? On s'en va quoi sur le site de CBC?
Sur le site de CBC, CBC Battles of the Blades, il y a une section où tu peux aller voter. Et on a les votes. Dans le fond, la performance était hier. Et on a jusqu'à mardi pour faire des votes. Vous avez le droit de voter une fois par jour, qu'on dit. Donc, une fois par jour de pouvoir voter. Et les deux équipes avec le moins de votes vont devoir se battre pour leur survie jeudi prochain. Pour les autres équipes, t'es safe, on pourrait dire, t'es secure. Tu fais juste une autre performance pour la semaine suivante. Et ça continue comme ça, à élimination. Et à chaque semaine que l'équipe réussit à rester, le montant pour la fondation, le montant pour la charité augmente.
Bon, ben alors, donc, sur le site de CBC, onglet Battle of the Blade, vous allez voter pour Bruno. On va prouver que nos amis anglos se sont trompés, qu'on est capable de supporter quelqu'un du Québec, même si ça se passe du côté de CBC. Puis je te le dis encore une fois, Bruno, félicitations, et je te regardais, t'as pas pris trop de poids depuis que t'as arrêté de jouer au hockey. Ça paraissait bien, sa patinoire, c'était correct, ça.
Ben, j'ai été chanceux. Le premier appel que j'ai fait, c'est à PJ Stock. Quand j'ai eu le vent qui avait l'intérêt pour Battles of the Blade, et à ce moment-là, PJ n'était pas supposé être sur le show. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Retourne dans le gym comme tu te préparais pour un camp de sélection. » Parce que c'est très intense. Oui, c'est une chose de porter ses chandails et là et tout, mais c'est un camp de sélection qu'on a, un bootcamp qu'on a fait qui est très intense. On fait une heure d'hors-glace, de lever, de technique, et ensuite 3 heures de glace par jour, et c'est loin d'être de tout repos. Les entraîneurs qui sont ici, c'est la crème du patin artistique, et ils s'attendent à cette éthique-là ou cette attitude-là d'athlète professionnel, donc on est poussé vraiment à la limite, c'est super. Mais il a fallu, PJ m'a donné un bel avertissement de retourner dans le gym intensément pour me préparer pour ça.
Bon, ben ce fut de bons résultats, assurément. Bruno Gervais, maintenant, je veux qu'on parle du Canadien un peu. Hier, c'était, je dirais, le festival Nick Suzuki, c'était le festival Brendan Gallagher, c'était le festival Jordan Will, Arturi Lehkonen. Écoute, il y a un tempo présentement chez le Canadien de Montréal que, un, j'aime, et que, deux, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un copier-coller sur ce qu'on a vu l'année passée. C'est intensité à fond, Léon, dans le visage de l'équipe adverse. Ça me semble ça, l'ADN du Canadien cette année.
C'est ce qu'on a vu l'année dernière, quand il y a eu ce changement-là, et ça, c'est à travers l'organisation, de jouer rapidement, de cette éthique. Ils ont copié beaucoup de choses que les Golden Knights ont fait à leur première saison, et ça fonctionne bien. En plus de cette profondeur-là de jeunes attaquants, très dynamique. Et quand tu me mentionnes ces noms-là, là, Suzuki, Will, Lehkonen, ça, c'est très intéressant pour une organisation parce que c'est de la compétition à l'interne que tu commences à avoir avec l'organisation qui va juste la faire grandir et la faire avancer. Quand tu vois des équipes comme le Lightning de Tampa Bay qui connaissent excellente saison après saison après saison, c'est parce qu'il y a tout le temps un joueur à l'interne, peu importe si tu perds un joueur sur le marché ou un joueur qui se blesse, il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de venir remplir cette place-là et avoir un impact. Mais c'est ce qu'on est en train de créer avec le Canadien, présentement avec cette profondeur-là, des jeunes attaquants, des jeunes espoirs qui commencent à pousser et des joueurs comme Lehkonen ou Will qui cherchent une niche dans la Ligue nationale, qui veulent s'impliquer, qui ont le talent pour le faire, qui ont juste besoin de forcer la main d'un entraîneur pour l'avoir. Lehkonen, l'année dernière, ça n'a pas été la meilleure saison. C'est sûr que ce n'est pas la saison qu'il voulait offensivement, mais il a tout fait sur la patinoire. Il créait beaucoup d'occasions, mais n'était pas capable de les terminer. Mais il a fait assez pour mériter son temps de glace et garder son temps de glace, garder, s'acheter un peu de patience. Mais lui, ça y prenait un départ canon, ça prend un bon départ. Et de commencer dans les matchs hors concours, c'est la meilleure chose pour sa confiance. Parce que quand le premier match de la saison va commencer, il faut qu'il soit capable d'avoir un impact offensif parce qu'il veut établir sa niche. Même chose avec Jordan Will. C'est sûr qu'il est tanné de changer d'adresse. Il veut être capable de s'implanter dans une équipe. Oui, c'est un espèce de couteau suisse qui peut jouer au centre, à l'aile, mission défensive. Mais sa vraie tâche à lui, la vraie façon qu'il peut avoir un impact avec une équipe, c'est au niveau offensif. Il l'a fait à tous les niveaux. Il veut trouver la façon de le faire à la Ligue nationale. Fait que quand tu entends ces gars-là connaître du succès et d'arriver prêt à un camp de sélection et qu'ils sont prêts à pousser, à forcer la main à un Claude Julien pour avoir une mission offensive, c'est juste du bonus, c'est juste du bon pour une organisation.
Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Nick Suzuki. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir les faits saillants de ce qui s'est passé hier. Écoute, il était tout feu, tout flamme. A été en confiance sur la patinoire, a très bien distribué la rondelle, a joué en avantage, en désavantage numérique. Sur sa ligne, a fait du double chiffre également, a été joué par moment sur le quatrième trio au centre. Et en plus, a marqué un but spectaculaire en tir de barrage. Tu sais, si on disait, puis j'en parlais avec Danny Dubé après le match de mercredi, tu sais, si on disait que Nick Suzuki était un peu timide dans le premier match, là, il s'est sérieusement dégêné dans le match d'hier, évidemment, face aux Panthers de la Floride.
Et ça, c'est une bonne chose pour le Canadien, c'est que tu veux voir une progression. Il y a tout le temps une partie au début où c'est un petit peu zone grise, où tu vas regarder les premières pratiques, les premiers entraînements, le premier match hors concours, mais tu donnes une chance aux coureurs. Il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de choses à assimiler pour ces joueurs-là. Fait que tu leur donnes une période d'adaptation. Pour être juste avec eux, c'est quasiment de fermer les yeux, de leur donner quelques jours d'ajustement et là, d'ouvrir tes yeux et là, d'évaluer. Et Nick Suzuki n'a pas manqué sa chance quand là, l'évaluation commence, quand l'alignement de chaque équipe commence à s'améliorer, commence à pencher un peu plus, de plus en plus de vétérans dans les formations, plus ça va avancer, plus il va en avoir. C'est là que tu vas avoir un joueur comme lui, avoir un impact et garder sa confiance. Parce que le but qu'il fait en tir de barrage, c'est pas un joueur hésitant ou un joueur un peu nerveux qui aurait pris la chance d'aller lober la rondelle de cette façon-là ou d'y aller de ce genre de tir-là. Là, tu le vois que et oui, il y a des certaines lacunes à son jeu. Il va tout le temps vouloir peaufiner son jeu, s'améliorer. On a beaucoup entendu parler de son explosion, de son coup de patin, ces choses-là qui sont peut-être pas ses forces. Mais là, il est en train de démontrer c'est quoi ses forces et pourquoi il peut être utile à avoir un impact dans la Ligue nationale. Et de là, tu peaufines et tu continues d'améliorer ton jeu. Il l'a fait hier et on le voit. Là, il est en train de démontrer que placé à la bonne place, là, quand ça va être le moment, il va être capable d'être ce genre de joueur-là et d'avoir un impact. Est-ce que ça va être tout de suite? Est-ce que ça va être quelque chose en réserve? Là, ça reste à voir.
Bruno Gervais, je veux savoir une chose. On parle, puis écoute, je dis pas que ce n'est pas vrai. Je pense que Nick Suzuki doit améliorer son explosion sur ses départs, sortir plus rapidement de zones difficiles. Mais à un moment donné, ce gars-là a tellement d'outils dans son coffre qu'il trouve le moyen de bien se placer pour éviter d'être pris en défaut. Est-ce qu'un gars comme ça peut évoluer avec deux gars plus rapides et s'en tirer sans même tout le temps qu'on parle de son explosion de coup de patin? Est-ce qu'avec deux gars rapides, Nick Suzuki peut se tirer d'affaire?
Sans aucun doute pour moi. On mise beaucoup, c'est devenu tellement un élément important, la vitesse. Puis il y a des façons de jouer, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer rapidement. Et c'est pas nécessairement de la vitesse pure. On ne parle pas d'une vitesse, là, d'une ligne bleue à une ligne bleue le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de façons d'anticiper, de se positionner où tu es capable d'aller sauver une seconde là, une seconde ici, et tu vas avoir l'air de jouer rapidement. Un exemple qui me vient en tête, c'est Ryan O'Reilly. C'est loin d'être un joueur rapide, mais il est tellement efficace dans ses déplacements, dans la façon où il va être, ou dans la façon qu'il reçoit une rondelle, il est capable de redistribuer cette rondelle-là tellement rapidement que le jeu évolue vite autour de lui. Il est capable de rentrer dans un système que ça bouge rapidement. Mais c'est sûr que là, de temps en temps, dans un match, il va arriver une course pure pour une rondelle. Mais sachant que tu arrives deuxième, ces joueurs-là sont capables de trouver une autre façon intelligente d'exercer de la pression, d'aller bien se positionner. Il y a toutes sortes de façons de t'en sortir. Et ça, montrer un joueur ou aider un joueur à s'entraîner pour devenir un peu plus rapide, c'est une chose. Ça se fait. Mais de montrer un joueur d'avoir le QI hockey et d'anticiper ces jeux-là, c'est extrêmement, quasi impossible. Le fait que Nick Suzuki est capable de réfléchir à cette vitesse-là, d'anticiper le jeu de cette façon-là, il va trouver des façons d'avoir un impact. Et c'est de là que, comme tu dis, tu peux l'entourer de joueurs un peu plus rapides qui vont l'aider sur l'échec avant ou de le mettre dans une position pour qu'il puisse avoir du succès. Mais son QI hockey, ça s'enseigne pas. Puis ça, il l'a, fait que c'est de savoir est-ce qu'il va être capable très rapidement de l'utiliser pour avoir un impact dans la Ligue nationale.
Bruno, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Rand Peeling, lui qui a été mis de côté, évidemment, là, en raison d'une commotion cérébrale. On l'a vu dans le match de mercredi, a reçu une mise en échec un peu tardive, tu sais, un peu dans l'angle mort, s'est cogné la tête sur la baie vitrée. Les images montrent, hors de tout doute, que le gars avait un malaise. On peut pas penser que c'est un malaise au casque, parce que là, clairement, c'était pas le cas. C'était un malaise à la tête. Et lui a continué à jouer, a joué quand même un excellent match, a été impliqué. Puis là, aujourd'hui, on apprend qu'il souffre d'une commotion cérébrale. Peut-être expliquer aux gens, puis Écoute, je le sais, t'es joueur de hockey. J'ai pas joué au même niveau que toi, que tout le monde, mais je comprends qu'en tant que joueur de hockey, il y a des choses des fois que tu sais, quand tu veux faire ta place, tu veux pas le dire. Veux pas, Ryan Poehling, s'il a mal à la tête, il va pas le dire. Il va pas dire aux Canadiens, hey, c'est beau, sortez-moi, j'ai une commotion cérébrale. À moins qu'il y ait des symptômes, c'est ce qu'il y a eu aujourd'hui. Et là, il a levé la main pour dire, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe quand t'es recrue?
Ah, c'est sûr. Et surtout quand tu regardes le synchronisme pour lui, quand tu regardes dans la situation où il est présentement, le fait qu'il est venu l'année passée, a connu une soirée mémorable à Montréal, marquant son tour du chapeau, marquant dans le tir du barrage, le tir de barrage. Il était dans un espèce de rythme où il a été un joueur étoile au championnat du monde junior, finit sa saison au niveau universitaire, passe au niveau professionnel. Et là, tu continues à monter les échelons, tu es sur une lancée. Et ta prochaine étape, tu veux jouer dans la Ligue nationale, tu veux pas avoir un pas de recul. Et là, c'est sûr qu'il y a énormément de frustration de son côté. Il est là, c'est maintenant, c'est dans le camp de sélection, il est en train de forcer la main aux dirigeants, il est en train de se creuser sa niche et d'être capable de sauter à Montréal. Il veut faire le saut tout de suite. C'est sûr, comme joueur, là, t'as l'impression là, que c'est quasiment que c'est la fin là, quand t'es pas capable de continuer sur ce genre de lancer-là. Mais c'est la meilleure chose. Quand tu veux pas penser pour les 10 premiers matchs de la saison, il faut qu'il pense à ce que l'ensemble de sa carrière peut être. Et ça, c'est le genre de décision. Maintenant qu'il y a beaucoup plus d'informations sur la situation de la commotion cérébrale, c'est une excellente chose que le Canadien soit capable de l'appuyer là-dedans, qu'il a accepté, que tout le monde est sur le même bateau pour dire on va traiter ça comme une commotion, comme ouais. Il faut. Et de là, on va continuer à avancer. Parce qu'ils ne gagneront pas la Coupe Stanley maintenant ou il ne fera pas sa carrière maintenant. On est au mois de septembre. C'est d'être capable d'être patient avec ça. Ça, c'est une excellente chose pour les deux parties. Mais c'est sûr que présentement, il voit du noir.
Clairement.
C'est de la frustration pour le jeune.
Oui, clairement. Bruno Gervais, écoute, retourne à l'entraînement parce que c'est pas terminé. Battle of the Blade. Je te dis un gros merci d'avoir été avec nous, Bruno.
Un grand merci. Toujours un plaisir de parler, Jérémy.